écrit Doctrino d'Ambrose Rigg, Ambrose Rigg 1635-1705, né à Bampton dans le Westmorland en Angleterre, fut un éminent ministre quaker. Fort de son expérience de maître d'école, ses écrits étaient concis, faciles à comprendre, soigneusement étayés par l'écriture et très instructifs. En 2008, on ne peut retrouver que très peu de ses écrits. Ses écrits mettaient souvent en conviction ceux qui se complaisaient dans la poursuite de leur péché, ne parvenant pas à vaincre le péché par la croix intérieure du renoncement à soi, et par conséquent, ne parvenant pas non plus à faire l'expérience du baptême de feu et de mort en Christ, ni de l'entrée dans le royaume de Dieu. Il écrit clairement sur la nécessité de la croix et dénonce les appels visant à contourner ce préalable pour devenir un véritable chrétien. Ce cri n'était pas populaire, ses livres sont donc tombés dans l'oubli. Ses écrits sont véritablement remarquables et se placent parmi les meilleures exhortations, réprimandes et encouragements des premiers Quakers. Son journal est court mais instructif. Ses lettres sont exceptionnelles, érudites, logiques, convaincantes et inspirantes. Un témoignage du véritable christianisme, le grand et éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve par sa parole, a aussi créé l'homme à son image qui est justice et sainteté, et il a tiré la femme de ses os et de sa chair, et a soufflé dans leurs narines le souffle de vie, de sorte qu'ils devinrent des âmes vivantes. Il leur donna la possession de la vie, l'arbre même de celle-ci, avec l'intention et le dessein qu'ils puissent vivre avec lui, par elle, dans la beauté de sa sainteté pour toujours, et qu'ils puissent jouir de la communion et de la fellowship avec lui, durant leur séjour sur la terre, dans son alliance de vie faite avec eux. Mais eux, rompant son alliance, en prêtant l'oreille à la subtilité du serpent, la mort entra sur eux, et régna sur eux, et sur tous, dans l'état de chute. La mort régna d'Adam jusqu'à Moïse, par qui il ajouta la loi, à cause de leur transgression, qui devait demeurer sur eux jusqu'à ce que vienne la semence, c'est-à-dire Christ, lequel devait écraser la tête du serpent, qui avait prévalu sur eux, et avait le pouvoir de détruire cette mort, qui, par le péché, avait acquis domination sur eux. C'est ce Christ de Dieu, qui, en notre temps, est manifesté en esprit, pour détruire les œuvres du diable, et ramener toute l'humanité à cette perfection de sainteté dans laquelle elle fut créée. Tous ceux qui le reçoivent véritablement, dans sa manifestation spirituelle, et se donnent pour le suivre dans le chemin étroit et resserré de la sainteté, à cela il donne maintenant le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu, lesquels non seulement ont reçu l'esprit d'adoption, mais se donnent à marcher en lui, par lequel ils sont capables d'appeler Dieu Père, étant fait fils et filles de Dieu en suivant les conduites et les directions de son esprit, et engendrés par sa parole immortelle, qui vit et demeure pour toujours. Ceux-ci sont de cette naissance qui ne peut appeler aucun homme père, ni maître sur la terre. Et pourtant ils sont serviteurs de tous pour l'amour de Christ, leur prince céleste de paix, de qui ils ont appris à être doux et humbles, et leurs âmes sont entrées dans le repos avec lui, où les méchants cessent de troubler, où les fatigués sont au repos, et où la voix de l'oppresseur ne s'entend plus. Il a rompu, et continuera encore de rompre, l'alliance que beaucoup ont faite avec la mort, c'est-à-dire d'être soumis à sa puissance régnante tant qu'ils sont sur la terre. Et l'accord qu'ils ont fait avec l'enfer, d'être sous la servitude du péché et l'esclavage de la corruption toute leur vie, et de n'être jamais délivrés du péché et de la corruption tous leurs jours, comme des milliers sont séduits à le croire. Par là, la venue, la souffrance, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, notre Sauveur complet et médiateur, sont rendues vaines et sans effet, et le sang de sa croix est tenu pour une chose vaine, ce qui est une grande offense contre Dieu. Car premièrement, sa venue et sa manifestation avaient pour but d'ôter le péché, 1 Jean 3:5. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste, verset 7. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, verset 6. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3:8. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela qu'on connaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère, 1 Jean 3, 9-10. Ainsi, ceux qui plaident pour que le péché continue dans leur corps mortel durant la vie s'opposent au bénéfice de sa venue et de sa manifestation, qui était d'ôter le péché et de mettre fin à la transgression. 1 Jean 3:5, Hébreux 9:26, 1 Timothée 15:9-24, et par conséquent au bénéfice de sa souffrance, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension dans la gloire, lui étant un sacrifice parfait pour le péché, un médiateur, qui a pouvoir de détruire celui qui avait le pouvoir de la mort. Celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4:10-13. Ainsi l'ont magnifié ceux qui étaient de véritables témoins de la puissance de sa mort, et de la vertu de sa résurrection et de son ascension, par lesquels ils ont obtenu la victoire sur la mort, les ténèbres et la puissance du tombeau, et ils furent rendus plus que vainqueurs par celui qui les a aimés, Romains 8:37. Et ils rendirent grâce à Dieu, qui leur avait donné la victoire par Jésus-Christ, et ils triomphèrent de la mort et de son aiguillon, qui est le péché, 1 Cor 15:55-57. Deuxièmement, ceux qui croient que les hommes doivent porter avec eux un corps de péché tant qu'ils sont sur la terre rendent, quant à eux-mêmes, la circoncision et le baptême de Christ sans effet, en contradiction avec le témoignage de l'apôtre, Col 2:10-11. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision de Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en l'action de Dieu qui l'a ressuscité des morts, Col 2:10-12. Et aussi Jean, bien que ministre du baptême d'eau, rendit néanmoins témoignage de Christ, disant qu'il les baptiserait du Saint-Esprit et de feu, il a son van dans sa main, et il nettoiera entièrement son ernoté, entièrement et amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille d'un feu inextinguible, Matthieu 3:11-12. Voici une séparation complète, le blé d'avec la paille. Le baptême de Christ ne laisse pas un corps de péché en ceux qui en sont baptisés, car tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont été baptisés en sa mort, ils ont été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, eux aussi marchent en nouveauté de vie. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que désormais nous ne servions plus le péché, Romains 6:3-6. Troisièmement, ceux qui plaident pour la continuation du péché tous les jours de la vie d'un homme ont fait du sang de Christ une chose d'une valeur non supérieure au sang des taureaux et des boucs, offert dans la première alliance, qui aspergeait ce qui était souillé et qui sanctifie quant à la purification de la chair. Mais combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Hébreux 9:13-14. Il s'agissait ici d'une purification intérieure de la conscience de la mort et des œuvres mortes par la vertu du sang de Jésus. Voici l'antitype de Moïse, aspergeant le peuple sous la loi, avec de l'eau et le sang des veaux et des boucs, avec de la laine écarlate et de l'hysope, lui qui aspergea le tabernacle de sang, et tous les vases du service, disant « Ceci est le sang du testam que Dieu a ordonné pour vous » Hébreux 9:19-21. Car si le sang des taureaux et des boucs avait pu ôter le péché, il n'y aurait eu nul besoin d'un autre sacrifice. Mais trouvant à y redire, il dit « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, je ne les ai pas considérés, dit le Seigneur. Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'auront plus besoin d'enseigner chacun son prochain, et chacun son frère, en disant, « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, » Hébreux 8:8-11. Ici est connu le sang d'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, et qui est capable de purifier de tout péché et de sanctifier entièrement mon corps, âme et esprit, mettant fin à toutes les offrandes et à tous les sacrifices de la loi et de la première alliance, qui ne pouvaient rendre parfait quant à la conscience ce qui s'en approchait, Hébreux 9:9. Et par conséquent, cela ne pouvait continuer, mais fut aboli, à cause de sa faiblesse et de son inefficacité, n'étant que des ombres et des types de l'aspersion spirituelle, de la sanctification et de la purification du cœur et de la conscience par le sang de Jésus, l'agneau sans tache, qui, par une seule offrande, a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, Hébreux 10:14. Quatrièmement, ceux qui plaident pour un corps de péché, durant le temps de la vie, rendent la circoncision de Christ sans valeur, et font de Paul, ce grand ministre du véritable évangile, un faux témoin. Il dit aux Romains, qui avaient été baptisés dans la mort de Christ, qui est une mort au péché, « Sachant ceci, notre vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Romains 6:6. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 20, 22. Cinquièmement, ceux qui ne croient pas à une liberté du péché de ce côté-ci de la tombe rendent sans effet la promesse de Christ aux Juifs qui croyaient en lui lorsqu'il dit « S'il demeurait dans sa parole, il serait vraiment ses disciples, et il connaîtrait la vérité, et la vérité les rendrait libres. » Jean 8, 31-32. Et si le Fils, qui est la vérité, vous a franchi, vous serez réellement libres. V. 36. Cette liberté par le Fils n'est obtenue par nul autre que ceux qui se donnent à le suivre et à obéir à sa parole, à qui il donne le pouvoir, non seulement d'être serviteur, mais fils de Dieu. Et nul ne peut demeurer ferme dans cette liberté, sinon à mesure qu'il est soutenu chaque jour par sa puissance, en qui repose leur liberté. Cela amena l'apôtre à exhorter les saints, qui étaient nés de la femme libre par la promesse, à demeurer donc ferme dans la liberté dont Christ les a affranchis, et à ne pas se laisser de nouveau engager sous le joug de la servitude. Galates 5, 1. Et aux Hébreux, puisque les enfants participaient au sang et à la chair, lui aussi y a participé pareillement, afin que par la mort, il détruisît celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrât ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Or un corps de péché, tout au long de la vie, maintient l'âme dans l'esclavage, de cet esclavage le Fils de l'homme est venu délivrer. Car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'y a soumise en espérance, parce que la créature elle-même sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant, Romains 8, 21-22, c'est-à-dire jusqu'à ce que fût connue l'œuvre de délivrance du Fils de Dieu, qui était et qui est capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur, Hébreux 7, 25. Ainsi il était et il est un sauveur parfait pour sauver son peuple, ses disciples et ses suivants de noter, de non dans leur péché, Matthieu 21. Sixièmement, ceux qui nient la perfection dans cette vie rendent le commandement de Christ sans force, Matthieu 5, 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Son commandement s'adressait à des hommes vivants, non à des morts. Or, si cette perfection n'est pas atteignable, la bouche de la vérité ne l'aurait pas commandée, et ses commandements furent toujours justes et non pénibles, 1 Jean 5, 3. Septièmement, ceux qui ne croient pas à la perfection en sainteté de ce côté-ci de la tombe ont sous-estimé, et n'ont pas véritablement cru, la prière de Christ, Jean 17, 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient rendus parfaits dans l'unité, et que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et aussi le témoignage de Paul aux Corinthiens. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, qui sont réduits à néant, 1 Corinthiens 4, 6. Et dans sa seconde épître, il les exhorta à tendre vers la perfection, 2 Corinthiens 13, 11. Et le même apôtre, écrivant aux Éphésiens, parle ainsi de Christ, « Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4, 10, 13. Or ces dons sont tous vains, et sans effet chez ceux qui ne croient à aucune perfection pouvant être attestée dans cette vie. C'est un signe manifeste qu'ils n'en connaissent rien, ni l'œuvre du véritable ministère, ni les étapes graduelles de tous les véritables croyants de l'Évangile vers la perfection de la sainteté devant Dieu, que tous les vrais disciples de Christ s'efforcent d'obtenir, par la puissance et l'efficacité de la vie de Jésus, laquelle est mise en lumière et manifestée dans la chair mortelle, en notre temps par l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est un Évangile de bonne nouvelle, à savoir, la délivrance de l'esclavage du péché et de Satan. Tous ceux qui croient véritablement en lui en sont des témoins vivants, étant fait son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous y marchions, selon Éphésiens 2, 9, 10. Seuls ceux qui sont de véritables témoins de cette œuvre peuvent louer le Seigneur, étant fait membres vivants de ce corps dont Christ est la tête, le souverain et le législateur. Ils ne sont pas de ce monde, comme lui n'est pas de ce monde, ils ne recherchent ni l'honneur ni l'avancement qu'il offre, mais ils sont comme des étrangers et des pèlerins. Et bien qu'ils soient sur la terre, leur conduite est dans le ciel, ayant le sceau de l'Esprit de Dieu, rendant témoignage avec leurs esprits qu'ils sont fils et filles de Dieu. Tel est l'effet et le fruit du véritable jour de l'Évangile, opéré et produit en tous ceux qui y marchent jusqu'à la fin. Ceux-ci ne sont pas ballottés çà et là par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et la finesse trompeuse de ceux qui guettent pour leur gain impie afin de séduire, mais ils sont nés de cette semence élue dans laquelle aucun séducteur ne peut entrer, et ils marchent dans la lumière de l'agneau selon la prophétie de Jean, Apoc 21, 23-24, où il n'y a ni nuit ni ombre de mort. Ceux-ci ont la pierre blanche et un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit, et ils sont vêtus de fin lin blanc, qui est la justice de l'agneau, mise sur eux par celui qui l'a opéré en eux, ayant de l'huile dans leur propre lampe, et prêts à entrer avec l'époux chaque fois qu'il appelle. Mais que ceux qui n'ont pas d'huile dans leur propre lampe, et qui sont contraints d'aller vers ceux qui en vendent, y réfléchissent, afin qu'ils lisent comment les tels furent acquis par l'époux céleste, Matt 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages, et 5 étaient folles. Celles qui étaient folles prirent leurs lampes et ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, disant, « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent aussi, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit et dit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas ». Or, celles-ci étaient tenues pour des vierges, et connaissaient leur devoir pendant leur vie, qui était d'avoir de l'huile au-dedans, afin de tenir leur lampe toujours allumée, prête à entrer, chaque fois que venait l'époux de leur âme. Mais les folles ne le firent pas. Toutefois elles se rendirent compte qu'il leur en manquait lorsque l'époux vint, et ainsi elles allèrent en acheter auprès de ceux qui en vendaient. Mais hélas, pendant qu'elles étaient parties, la porte fut fermée, et elles ne purent entrer dans la chambre nuptiale. Craignez et redoutez cela, vous tous qui êtes sortis pour acheter, de peur que la porte d'entrée ne soit fermée contre vous pour toujours. Huitièmement, ceux qui plaident pour que le péché et l'imperfection demeurent durant tous les jours de leur vie ont par là même pour eux-mêmes renversé le témoignage de Jean, le disciple bien-aimé, 1 Jean 4-17, « En ceci notre amour est rendu parfait, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Notez dans ce monde. Il n'a pas dit « Acquions la mort pour nous rendre parfaits », comme certains ouvriers imparfaits l'ont fait dernièrement, attribuant plus de pouvoir et de vertu à un linceul qu'au sang de Jésus-Christ, contrairement au témoignage des saints et des vrais croyants, qui en leur temps témoignèrent que s'ils marchaient dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, ils avaient communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, les purifiait de tout péché, 1 Jean 1-7. Jean dit cela dans la foi, vers laquelle les croyants grandissaient, et qu'ensuite ils attestèrent, comme je l'ai noté ci-dessus. Neuvièmement, ceux qui disent qu'ils ne peuvent être rendus purs en ce monde n'ont aucune part aux bénédictions que Christ a proclamées, Matt 5-8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, verset 6. Or nul ne peut être rassasié de justice, ni attester un cœur pur, tant qu'un corps de péché demeure. Et nul ne peut devenir participant de la foi vivante, qui purifie le cœur, 1 Pie 1, 22, acte 15-9, 1 Tim 1, 5, tant qu'il demeure dans le péché et l'incrédulité qu'il ne peut être rendu pur en ce monde. Et si ce n'est pas en ce monde, il importe grandement à chacun d'eux, tant qu'il a un jour, de considérer quand et où il sera rendu libre et apte à entrer dans le royaume des cieux, où aucune personne impure ne peut entrer, Éphésiens 5:5, Hébreux 38:18, et ni la mort ni la tombe ne peuvent louer le Seigneur, ni ceux qui descendent dans la fosse espérer en sa vérité. Objection. Mais la grande objection et le plaidoyer que beaucoup ont en notre temps, c'est ce passage de Jean où il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous, 1 Jean 1:8. Supposant que ni lui ni aucun des saints hommes de Dieu n'avait ou n'aurait jamais à connaître un état et une condition meilleure que de continuer dans le péché tous leurs jours, ce qui est une grande erreur et d'une conséquence dangereuse, comme tous peuvent le voir en lisant 1 Jean 3, 2-10, « Bien-aimés, nous sommes maintenant. » Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Et vous savez qu'il a été manifesté pour ôter nos péchés, et qu'en lui il n'y a point de péché. Quiconque demeure en lui ne pèche point, quiconque pèche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui fait la justice est juste comme lui est juste, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. À cela se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et 1 Jean 4, 17. En ceci notre amour est rendu parfait, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, parce que tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Commentaire de l'éditeur du site. Cherchant à réfuter les nombreuses écritures qui témoignent de la perfection de la sainteté et de la pureté, les faux prophètes invoquent 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous, en le tirant de son contexte par rapport au passage qui l'accompagne, comme si le péché était invincible en cette vie. Jean décrit le processus par lequel le sang de Christ nous purifie de tout péché. Nous commençons tous comme pécheurs, mais nous pouvons être purifiés par Christ. Voir dans Purification comment Jean décrit le processus. Voir comment bénéficier de la puissance transformatrice de Dieu, pour savoir comment recevoir la purification. Ici, la perfection a été attestée par dans ce monde, étant rendue plus que vainqueur par celui qui les a aimés, Rom 8, 37. Et Paul écrivant aux Romains dit, « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc, demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde, loin de là ? Comment nous, qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore en lui ?» Rom 5, 21, Rom 6, 1. Et écrivant aux Éphésiens au sujet de l'état de l'Église, il exhorta les maris à aimer leur femme, comme Christ a aimé son Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage d'eau par la parole, afin de la présenter à lui-même une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irrépréhensible. F5, 27. C'est l'Église des premiers-nés, dont Paul rendit témoignage aux Hébreux, qui étaient parvenus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, à l'Assemblée générale et à l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, et à Dieu, le juge de tous, et aux esprits des justes rendus parfaits, Hébreux 12, 22, 23. Et Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, à l'intérieur d'un homme et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucune manière vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ici était la liberté parfaite pour l'Église, eux qui furent rendus participants de cette précieuse foi qui leur fut alors transmise, par laquelle ils eurent la victoire sur la mort, l'enfer et le tombeau, et furent faits une demeure de Dieu par l'Esprit. F2 19 22. Ils étaient bien loin de plaider pour la continuation du péché durant tout le cours de leur vie, comme beaucoup le font en nos jours, lesquels, bien qu'ils professent Christ en parole, le renient par leurs œuvres, ce qui est une sorte d'athéisme, ainsi leurs œuvres démentent leurs paroles. Car ce ne sont pas les paroles mais les œuvres qui manifestent la vraie foi, Jacques 2, 14, 25. Car comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte aussi, verset 26. Ceux qui sont en dehors de cette foi qui purifie le cœur et donne la victoire sur le monde, et qui ne croient à aucune victoire de ce côté-ci de la tombe, leur prédication est vaine, et leur foi vaine, et ils sont encore dans leur péché. Et ce qui est pire, ils ne veulent pas croire à aucune liberté du péché en ce monde. Christ n'est pas roi, gouverneur et évêque dans les âmes de tels, ils n'ont pas non plus part en lui, qui est la résurrection et la vie, parce qu'ils ne sont pas lavés et sanctifiés par lui, car il dit à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi », Jean 13, 8, 10. Objection. Mais j'ai entendu certains affirmer que Dieu permet le péché chez ses enfants les plus chers, afin de les garder humbles. C'est une doctrine de l'Antichrist, et elle n'a pas le moindre fondement dans la Sainte Écriture. Je n'en ai jamais entendu parler parmi les pires faux prophètes des Juifs, du moins de ceux dont j'ai entendu ou lu. Car si le péché est la cause de l'humilité, Christ serait venu en vain, lui qui était le modèle parfait de l'humilité, en qui il n'y avait pas de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune tromperie, 1 Pie 2, 22. Mais c'est la puissance de Dieu qui délivre l'homme du péché et le maintient chaque jour dans un état d'humilité d'esprit et d'âme, afin d'être conservé par la foi jusqu'à la fin du temps. C'est ce qui fit que Paul, lorsque son départ approchait, non pas d'un ton vantard mais humblement, dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. » 2 Tim 4, 6, 8. Il n'avait pas à accomplir, au moment de quitter ce monde, la grande œuvre du salut et de la victoire. Mais il l'avait attesté accompli et en rendit hardiment témoignage à Timothée, comme parmi ses dernières paroles. Et Pierre, près de son départ de ce monde, après avoir magnifié la puissance de Dieu par laquelle ils avaient échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise, exhorta les saints à s'appliquer à rendre ferme leur vocation et leur élection, 2 Pie 1:4-10. Cela ne pouvait se faire tant que le péché demeurait dans leur corps mortel. Une fin devait donc être attestée pendant qu'ils étaient sur la terre, car le roi Ézéchia avait auparavant témoigné que le Seigneur avait délivré son âme de la fosse de corruption et avait jeté tous ses péchés derrière son dos. Car la tombe ne peut te louer, la mort ne peut te célébrer, ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent espérer en ta vérité, Hébreux 38:17-18. Or si la mort ne peut célébrer le nom du Seigneur, ni la tombe le louer, comme ci-dessus, dans quelles conditions déplorables sont laissés ceux qu'on persuade de croire qu'ils doivent avoir un corps de péché jusqu'à la mort, et qu'ils ne peuvent jamais être rendus libres de ce côté-ci de la tombe. Je laisse à le témoin de Dieu, dans toutes les consciences, le soin d'y réfléchir profondément. Et de plus, je désire que tous ceux qui sont pour la continuation du péché pendant la vie découvrent, s'ils le peuvent par la Sainte Écriture, quand et où les hommes et toute l'humanité seront entièrement purifiés de celui-ci, soit avant la mort, au moment de la mort, ou après, entre la mort et le jugement, puisque nul impur ni homme avare qui est idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ ou de Dieu, Éphésiens 5:5-6. Et Jean, dans l'Apocalypse, témoigna au sujet de la cité céleste, qu'il n'y entrera en aucune manière rien de souillé, ni personne qui commette une abomination ou un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, Apoc 21:27, objection. Mais certains ont objecté et dit que si les gens sont entièrement purifiés du péché de ce côté-ci de la tombe, ils n'ont besoin d'aucun médiateur ni avocat. La conséquence est injuste et faussement déduite. Il y a besoin de Christ comme médiateur et avocat pour toute l'humanité, pour laquelle Christ prie ou intercède, et cela tant pour les transgresseurs que pour les saints, pour ceux qui ne sont pas sanctifiés et pour ceux qui le sont, pour les premiers, afin qu'ils soient sanctifiés, pour les derniers, afin qu'ils soient préservés et gardés du mal. Par conséquent, il y a besoin de Christ comme avocat pour toute l'humanité. Question : dans quel état les personnes peuvent-elles tirer un réel bénéfice de la médiation et de l'intercession de Christ, afin de recevoir le pardon et le salut ? Réponse : dans un état de besoin à cet égard et de désir véritable de cela, et lorsqu'elles ne durcissent pas leur cœur dans un péché volontaire. Christ intercède pour les hommes tant qu'ils ont un jour de visitation, durant lequel son esprit lutte avec eux. Mais de même que son esprit ne luttera pas toujours avec les hommes s'ils persistent dans la rébellion, ainsi Christ n'intercédera pas toujours pour eux. Il y a un péché qui mène à la mort ou un péché volontaire jusqu'à la mort pour lequel aucun pardon n'est obtenu par sacrifice, avocat ou médiateur, puisque l'apôtre aux Hébreux a dit « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires, Hébreux 10:26-27. Mais il y a un péché qui ne mène pas à la mort, au sujet duquel Jean écrivit aux petits-enfants disant « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste 1 Jean 2:1. Pour ce péché, il y a un avocat et un médiateur. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il demande, et Dieu lui donnera la vie pour ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. » Ici, le bénéfice de la médiation et de l'intercession de Christ, étant notre avocat auprès du Père, est reçu et non méprisé ni contrecarré, car il a dit « Le Fils de l'homme est comme un homme partant en voyage dans un pays lointain, qui laissa sa maison, donna autorité à ses serviteurs, à chacun son ouvrage, et commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le maître de la maison vient, le soir ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur que, venant tout à coup, il ne vous trouve endormi. Et ce que je le dis à tous, veillez. » Marc 13:34-37. Or, il n'y a pas d'état de ce côté-ci de la tombe, au-dessus d'un état de vigilance, car bien que l'ennemi soit chassé de la maison, c'est-à-dire du cœur, et qu'elle soit balayée et ornée, toutefois, faute de vigilance et de circonspection, l'ennemi prend avec lui sept autres esprits pires que lui, ils entrent et y demeurent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, mais n'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, Luc 11:24-26. » À ce sujet, l'apôtre Pierre exhorta les saints à être sobres et vigilants, car dit-il, « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer, résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra parfait, vous affermira, vous fortifiera, vous établira. 1 Pie 5, 8-10. Et Jude l'apôtre dit, « Les anges qui n'ont pas gardé leurs premières conditions, mais ont quitté leur propre demeure, il les a réservés, dans des chaînes éternelles, sous les ténèbres, pour le jugement du grand jour. » Jude 6. Cela fut écrit non pour être imité, mais pour susciter la vigilance en tous ceux qui sont parvenus à être une demeure de Dieu par l'Esprit, afin qu'ils gardent leur demeure et ne sortent plus vers ceux qui disent « Voici Christ ici » ou « Le voilà là ». Oui, s'ils vous disent « Voici, il est dans le désert, ne sortez pas, voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. » Matthieu 24, 26. Car Christ en vous, l'espérance de la gloire, est la part de tous ceux qui ne sont pas réprouvés quant à la foi. 2 Cor 13, 5-6. Il demeure et marche dans son temple, et ses brebis entendent sa voix et le suivent. Jean 10, 3-27. Mais elles ne suivront point un étranger. Mais la demeure sûre et le lieu de repos en sécurité, c'est le nom du Seigneur. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Pro 18, 10. Ici nul dévoreur ne peut venir, ni bête féroce entrer. Et ceux qui demeurent jusqu'à la fin dans la foi, la patience et les bonnes œuvres, ont l'immortalité et la vie éternelle, étant des témoins vivants du dessein éternel de Dieu en envoyant son Fils unique dans le monde, à savoir, mettre fin à la transgression, abolir le péché, et introduire une justice éternelle, selon la prophétie de Daniel, Dan 9, 24. Ceux-là ont le bénéfice de sa venue, ainsi que de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, et le connaissent comme leur médiateur, pour intercéder auprès du Père pour eux jour et nuit. Jean 17, 6-11, afin qu'il soit préservé de tout péché. La perfection de la délivrance du péché en ce monde ne peut jamais être attestée par aucun autre que par ceux qui reçoivent le Christ tel que le Père l'a donné, avec foi et pleine assurance qu'il est à la fois disposé et capable de mettre fin à la transgression dans toute âme, d'y introduire et de la remplir de justice éternelle à sa place et en son lieu, et de sauver parfaitement tous ceux qui lui obéissent et viennent à Dieu par lui. Par son obéissance, tous ceux qui le suivent jusqu'à la fin sont sanctifiés et purifiés, et seront glorifiés de la gloire qu'il lui plaît de leur donner. Et ainsi ils sont faits ses joyaux, dignes d'être recueillis à jamais dans son trésor. Ceux-là sont témoins de l'aboutissement de leur foi, à savoir le salut de leurs âmes, et capables d'apposer leur sceau au bénéfice de la venue, des souffrances, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Christ, leur médiateur et avocat. C'est pourquoi la perfection et la délivrance du péché doivent être crues et recherchées avec ardeur en cette vie, sinon elles ne pourront jamais être véritablement connues ni atteintes, ni les bienfaits de la venue, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ reçus. C'est pourquoi malheur à ce grand ennemi du genre humain, qui a aveuglé le monde afin qu'il ne voie ni croit les choses qui appartiennent à sa félicité éternelle, mais qui les persuade et les domine au point de passer leurs jours dans la vanité, de descendre au tombeau dans la tristesse, et de mourir dans leurs péchés et leurs souillures, comme le Christ l'a dit aux Juifs, Jean 8, 21-24, « Si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés, et si vous mourrez dans vos péchés, là où je vais, vous ne pouvez venir. » Or les Juifs extérieurs, qui ne voulurent pas croire en lui dans son apparence extérieure, et se fermèrent ainsi à eux-mêmes la porte d'entrée dans le royaume de Dieu, moururent dans leurs péchés, ne croyant pas au bienfait de sa venue, de son offrande, de sa résurrection ou de son ascension. Que les chrétiens extérieurs d'aujourd'hui prennent donc garde, de peur qu'en le rejetant et en ne le recevant pas dans son apparition intérieure et spirituelle, ils ne se ferment à eux-mêmes la porte d'entrée dans le royaume, et qu'ils ne se livrent, tous leurs jours, à la captivité sous la puissance du péché et de Satan. Car Dieu ne se laisse pas tourner en dérision, son esprit ne luttera pas toujours, ni ne s'offrira toujours à donner aux mortels la connaissance des secrets de Dieu, mais le jour de leur visitation prendra fin, et alors ils crieront, et il n'écoutera pas, et ils chercheront la mort, et ne la trouveront pas. Car le grand Dieu d'Israël a envoyé dans le monde son Fils unique engendré, dans son apparition spirituelle, afin d'accomplir la loi, de mettre fin à la transgression et d'introduire une justice éternelle. Et à tous ceux qui le recevront et consentiront à le suivre dans la régénération, il leur donnera le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu, et leur donnera l'esprit d'adoption pour leur permettre de crier « Abba Père, ils ne sont pas du monde comme lui n'est pas du monde, c'est pourquoi le monde l'est. » Que tous ceux qui ne croient rien de mieux que ceci, à savoir qu'ils doivent demeurer sous la servitude de la corruption tous les jours qu'ils vivront sur la terre, pèsent et considèrent sérieusement quand et où ils seront affranchis, puisqu'aucune personne impure ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. F5, 5. Que les rabbins savants les éclaircissent s'ils le peuvent, car cela les concerne au plus haut point, afin que leur jour ne se termine pas avant que leur ouvrage soit achevé, et que la nuit ne vienne sur eux, dans laquelle nul ne peut travailler. Ce n'est pas la profession du christianisme, mais son œuvre dans l'âme, qui rend les hommes bons et agréables aux yeux de Dieu. Je ne rapporterai que quelques témoignages, parmi les nombreux qui furent rendus par les anciens chrétiens primitifs, il y a bien des siècles conservés dans les écrits jusqu'à ce jour, à savoir, Clément d'Alexandrie en donna ce bref exposé, Nul parmi nous n'est chrétien ou tenu pour véritablement riche, sobre et généreux s'il n'est pieux et religieux, et nul ne porte davantage l'image de Dieu que dans la mesure où il dit et croit ce qui est juste et saint, en sorte qu'en bref, telle est la condition de ceux d'entre nous qui suivent Dieu. Tels sont nos désirs, tels sont nos discours, tels sont nos discours, telles sont nos actions, telles sont nos actions, telle est notre vie, ainsi toute la vie des chrétiens est universellement bonne. Assurément, nul n'était plus grand ennemi d'une simple profession extérieure et de la couverture d'une mauvaise vie sous le titre de christianisme. Est-ce que certains vivent autrement que le Christ n'a commandé? Si oui, c'est un argument très certain qu'ils ne sont pas chrétiens, quand bien même ils professeraient de la langue, avec la plus grande douceur, la doctrine chrétienne, car ce ne sont pas seulement les professeurs, mais ceux qui vivent conformément à leur profession, qui seront sauvés, comme Justin Martyr le déclara devant les empereurs. Christianisme primitif, partie 1, ch. 4. Que nul, dit Basile, ne s'abuse lui-même par des paroles inconsidérées, disant « Quoique je sois pécheur, je suis pourtant chrétien, et j'espère que ce titre me servira d'abri. Mais écoute, pécheur, tous les méchants seront liés ensemble en faisceau, et au grand jour de la vengeance divine ils seront indistinctement jetés dans ces flammes impitoyables et dévorantes. » Prime, Christ, partie 1, folle. 82. C4. Déjà la corruption se glissait dans la profession du christianisme. Mais les hommes droits parmi eux le virent et rendirent de bonne heure témoignage contre cela, toutefois elles n'étaient pas encore parvenues à ce degré de présomption consistant à plaider pour le maintien d'un corps de péché tous les jours de leur vie. Cela vint peu à peu ensuite, dans le minuit des ténèbres et de l'apostasie loin de la vie de Jésus, notre parfait sauveur du péché. De cette corruption surgit le pape, qui s'arrogea le titre honorable de chrétien, et celui d'au père, ou père des pères en cela. Mais tombant ensuite plus avant dans l'apostasie, l'Église fut submergée par davantage de corruption, et établit ces choses même que les chrétiens plus purs et plus primitifs dénonçaient et abhorraient, trop nombreuses pour être mentionnées ici. Étant sous la servitude de la corruption, et ignorant de la puissance de Dieu, et de sa suffisance pour délivrer l'âme du gouffre de corruption en cette vie, la fausse Église conclut que tous les hommes doivent porter un corps de péché tous les jours de leur vie. Alors l'ennemi intervint avec une autre illusion, plus subtile que la précédente, et les poussa à inventer un purgatoire, ou un lieu de purification du péché, entre la mort et le jour du jugement, chose dont il n'existe pas la moindre apparence de justification dans les Saintes Écritures. Mais l'entendement du peuple étant obscurci par les ténèbres, cela fut reçu parmi eux comme orthodoxe, et l'est encore aujourd'hui parmi des milliers, qui s'égarent, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Or, mes chers amis et compatriotes, entre les mains de qui ceci pourra parvenir, que la modération et la crainte de Dieu vous accompagnent dans sa lecture, comme l'amour de Dieu et les entrailles de compassion pour vous m'ont accompagné dans son écriture. Bien que la matière contenue ici ait été écrite auparavant par certains, je ne pouvais pas être en repos, ne sachant combien mon temps peut être court dans ce monde, sans laisser aussi un témoignage de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ en esprit, en cette dernière époque du monde, pour accomplir la volonté de son Père dans toute âme, qui est la sanctification et la rédemption du péché, de la mort, des ténèbres et du pouvoir du tombeau, de quoi, selon ma petite mesure, j'ai été témoin oculaire durant de nombreuses années. Sa venue en ces derniers jours a découvert les œuvres de Satan, durant la longue et sombre nuit d'apostasie qui a pesé sur le monde depuis les jours des apôtres, avec toute la séduction de l'injustice, dans laquelle la fausse Église s'est parée, sous prétexte des joyaux de la vraie, et s'est assise comme une reine, vêtue de beaux habits extérieurs agréables et séduisants pour l'œil charnel, et aussi avec sa coupe d'or attirante pour l'esprit et l'affection charnelle, et son temple semblable à ceux contre lesquels Origène l'ancien chrétien. Mais comme la femme dont Jean a rendu témoignage, qui était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abomination et d'impureté, et sur son front est écrit « Mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, Apoc 17:4-5, prime. » Cri partie 1 P1. Néanmoins, beaucoup ont été amoureux d'elle, se délectant à boire de sa coupe, qui ne pouvait voir son intérieur. Mais maintenant le grand sondeur des cœurs est venu, et le rouleau volant de sa colère entre et entrera de plus en plus dans la maison du voleur et dans la maison du faux témoin, qui disent « Ainsi a dit le Seigneur alors que le Seigneur ne leur a jamais parlé, et il la détruira avec ses pierres et son bois. La bouche du Seigneur des armées l'a dit, et cela s'accomplira en son temps. » Zacharie 5, 4. Mais Sion, qui a été comme une veuve abandonnée, deviendra comme une colline fertile, et ne sera plus appelée désolée ni abandonnée, mais elle revêtira ses beaux vêtements. Et l'agneau et ses disciples y demeureront, où il n'y aura ni nuit ni ombre de mort. Et Jérusalem sera une demeure paisible, le salut sera pour muraille et rempart, et son entrée sera louange. Il n'y a point de temple là sinon l'agneau, désormais et pour toujours. Écrit avec des entrailles d'amour et de compassion pour les âmes des gens partout, afin qu'ils connaissent la semence de Dieu se lever et produire en eux la justice, par un ami de tout le genre humain. Ambrose Rigg Régat, dans le Surrey le 22 du 10e mois, 1702. Le guide spirituel de la vie, proposé et offert à tout le genre humain, sans exception de personne, d'âge ou de sexe, pour diriger leurs pas dans la voie de la paix. Ou la grâce intérieure et spirituelle de Dieu, exaltée comme l'unique maître de l'homme. C'est une préoccupation universelle de tout le genre humain sur la face de toute la terre, de rechercher les choses qui appartiennent à leur paix, bonheur, tranquillité et repos éternels auprès de Dieu, lorsque le temps en ce monde ne sera plus. Pourtant, telles sont les ruses et les stratagèmes du serpent et adversaire de la félicité de l'homme, qui l'emporta sur Ève au commencement pour rompre l'alliance de vie de Dieu faite avec eux, qui l'emporte aujourd'hui sur la généralité de leur postérité, les amenant à mépriser, dédaigner et sous-estimer ce qui devrait apporter leur salut et les conduire à la connaissance du chemin qui y mène, à savoir la grâce intérieure et spirituelle de Dieu, qui fut manifestée et connue par le second Adam, Jésus-Christ, Jean 1, 17. C'est la racine, la substance et la vie de toute vraie religion dans le monde, et sans elle il n'en est aucune sur la terre, car Dieu l'a donnée pour apporter le salut jusqu'à ses extrémités et pour être un maître parfait et suffisant pour tous les hommes, 2 Corinthiens 12, 9. C'était le maître des saints dans l'administration évangélique qui a apporté leur salut, Tite 2, 11, 14. Et jusqu'à ce que les nations, et les peuples en général, viennent à entendre et à apprendre de ce maître intérieur et spirituel, ils ne pourront jamais être enseignés à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, ni à vivre sobrement et justement dans le présent monde. C'est le Christ de Dieu, spirituellement manifesté dans la chair mortelle, pour détruire les œuvres du diable. Et celui qui ne l'entend pas, ne le reçoit pas, ne le suit pas et ne lui obéit pas, ne peut jamais recevoir le pouvoir de devenir serviteur ou fils de Dieu, mais demeure tous ses jours dans le fiel d'amertume et le lien de l'iniquité, amassant la colère pour le jour de colère et la révélation des justes jugements de Dieu, et sa religion et sa foi sont vaines et inutiles. Ainsi le Christ, étant manifesté, devient l'auteur du salut éternel en tous ceux qui croient, et il est ce grand mystère qui a été caché à nos pères durant bien des générations. Là où il est reçu, entendu et obéi, il manifeste sa force et sa puissance dans l'âme, plus grande que la force et la puissance de l'ennemi. Il lie l'homme fort qui a longtemps gardé les cœurs de beaucoup, le chasse, y établit son propre trône, et règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et ainsi il devient l'espérance de la gloire pour le peuple, Col 1:27. Quiconque ne le reçoit, ne l'entend et ne lui obéit pas ainsi, ni ne s'abandonne à être gouverné par lui, ne peut être son disciple, ni recevoir de lui le pouvoir de devenir fils ou serviteur du Dieu vivant. Quand bien même il professerait son nom en parole et ferait belle apparence de christianisme selon la chair, ils sont étrangers à la vraie vie chrétienne, sans Dieu dans le monde, morts dans les péchés et les offenses, et ils ne peuvent jamais être relevés du tombeau de la corruption, sinon en croyant et en attendant la manifestation de sa puissance qui n'est connue et manifestée que par sa lumière et sa grâce intérieure pour accomplir toutes leurs œuvres en eux et pour eux. Ainsi l'homme doit-il être fait l'ouvrage de Dieu, recréé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, Éphésiens 2:10. C'est la nouvelle création, où l'homme reçoit l'image de Dieu, c'est-à-dire la justice perdue dans le premier Adam. Car comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte aussi, Jacques 2:17-20. Car c'est par des œuvres de justice que le Christ, la justice de Dieu, fait naître dans l'homme, que l'on reconnaît la foi qui sauve. Nul ne peut avoir une foi véritable en Christ s'il ne montre pas les œuvres de justice dans sa conduite. Car le fruit et l'effet de la foi salvatrice en l'homme est une justice et une sainteté intérieure, par lesquelles le cœur, l'âme et l'esprit d'un homme sont sanctifiés à Dieu, sans quoi nul ne peut voir Dieu. L'homme doit le suivre dans les œuvres de sa justice, apprendre de lui et porter sa croix, c'est-à-dire non une croix d'or, d'argent, de bois ou de pierre, mais celle qui crucifie leurs convoitises et plaisirs bien-aimés, sans quoi ils ne peuvent jamais porter sa couronne. Car si l'homme, par sa propre force, ne peut opérer son salut néanmoins, s'il croit en celui que Dieu a donné comme chef, Ésaïe 55, 4, et comme commandant à son peuple et le suit, il recevra de lui la puissance de faire tout ce qu'il lui commande, et sera sauvé par lui de son péché et de sa transgression. Car son nom est Jésus parce qu'il sauve son peuple de ses péchés, Matthieu 21. Quiconque n'est pas sauvé par lui ici de ses péchés ne pourra jamais être sauvé par lui ensuite de la colère et du déplaisir du Dieu Tout-Puissant, et de cette mort qui est le salaire du péché, Rome 6, 23. Or le moyen que Dieu a ordonné pour apporter son salut à tous les hommes, c'est sa grâce et sa vérité intérieure et spirituelle, venue par Jésus-Christ, Jean 1, 17. Ce maître intérieur, à mesure que tous les hommes viennent à l'entendre et à lui obéir, les sauvera par lui, Éphésiens 2, 8. Il a la vertu et la puissance de produire la justice en l'homme et d'extirper toute injustice. Il est semblable à un peu de levain caché dans la pâte dont le Christ a parlé, Matthieu 13, 33, et il fera lever toute la masse du genre humain vers la sincérité et la vérité, s'il est reçu et obéi. C'est la perle précieuse, cachée dans le champ qui est le monde, placée dans le cœur de l'homme, Écl 3:11 que l'homme sage y creuse profondément pour la trouver, Matt 13:45-46, et l'ayant trouvée, il vante et se dépouille de toutes ses convoitises pour l'acquérir. Nul ne peut l'acheter qu'au prix de la perte et du renoncement à toutes choses qui lui sont contraires. L'or ne l'achètera pas, et l'argent n'est que scorie en comparaison d'elle, son prix est au-dessus des rubis, et c'est pourquoi le sage a dit « Achète la vérité et ne la vends point », Prov 23:23 Apoc 3:18. Nul ne peut dire véritablement « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui », sinon en l'achetant ainsi par la vente de tout ce qui lui est contraire. C'est une parole dure pour beaucoup, ou pour la plupart des hommes, surtout pour les riches, qui ont de grandes possessions, et bien des convoitises et plaisirs chéris dont il leur faut se défaire, aussi chers et proches que leur main droite ou leur œil. C'est ce qui fit que le jeune homme à qui le Christ parla, Matt 19:21-22, s'en alla tout triste car il avait de grands biens, sur quoi le Fils de l'homme dit « Qu'un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu », verset 23. Et il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, verset 24. Ici est révélé le mystère de la piété, que l'homme naturel ne peut voir ni percevoir, car il est caché aux sages et aux prudents du monde, et découvert et révélé aux tout-petits et aux enfants. Les grands et orgueilleux de ce monde sont trop grands pour entrer par la porte étroite et marcher dans le chemin resserré. La prédication de la croix de notre Seigneur Jésus leur est folie, et ils ne peuvent voir la porte étroite, ni la croix que les apôtres prêchaient, et que tous les vrais disciples et disciples du Christ prenaient sur eux qui étaient crucifiés au monde, et le monde à eux, Gal 6:14. C'est pourquoi mettez de côté toutes vos croix imaginaires d'or, d'argent, de bois ou de pierre, elles ne valent rien, et il n'y a en elles aucune vertu pour crucifier une seule convoitise qui fait la guerre dans vos membres, car même si vous les portez dans votre sein, vos convoitises chéries y demeurent aussi non mortifiées qui chaque jour font la guerre à l'âme, et l'emportent à ce point qu'elles produisent le péché en parole et en acte. Et le péché, une fois accompli, produit la mort, Jacques 1:15. La vraie croix du Christ est la puissance de Dieu en tous ceux qui croient, 1 Cor 1:18. Et ayant fait la paix par le sang de sa croix, il a réconcilié par lui toutes choses avec lui-même, par lui dis-je, soit les choses sur la terre, soit les choses dans les cieux, Col 1:20. Ce par quoi les anciens chrétiens étaient crucifiés au monde, et le monde à eux, c'était la croix du Christ portée spirituellement, Gal 6:14. Mais depuis que la vie et l'esprit chrétiens ont été mis de côté et éteints, la connaissance de cette croix s'est perdue, et les gens en ont dressé une image, et sont devenus étrangers et ennemis de la croix du Christ, comme l'étaient les Juifs et les pharisiens au temps de l'Évangile, étant sans Dieu dans le monde. La connaissance du mystère du salut de Dieu pour tous les hommes sur la terre doit être ouverte et manifestée par le don de Dieu, à savoir sa grâce et son esprit, à mesure qu'il est reçu et obéi. Car comme nul ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même nul ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, 1 Cor 2:11. C'est avec cet esprit intérieur que le prophète Ésaïe cherchait le Seigneur, Ésaïe 26:9. Et c'est avec l'esprit de vérité au-dedans que tout homme doit chercher le Seigneur, s'il veut jamais le trouver et connaître son œuvre, car sans cela la connaissance du salut de Dieu est et sera toujours cachée aux sages et aux prudents du monde. Ce fut l'aveuglement des Juifs, résister aux dons spirituels de Dieu, Actes 7:51, eux qui de leur main impie, lapidèrent Étienne jusqu'à la mort, tout en maintenant le culte du temple, les offrandes et les sacrifices, mais en résistant à l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, ils devinrent plus aveugles que celui qui avait un esprit impur et disait au Christ « Je sais qui tu es le Saint de Dieu » Marc 1:23-24, Matt 8:29. Oui, le diable le confessa être le Fils de Dieu, Marc 5:7. La grande cause de toutes les erreurs dans le monde consiste à s'éloigner de l'Esprit de vérité au-dedans, le Consolateur maintenant envoyé selon la promesse du Christ, Jean 14:16-17, Jean 14:26. Ce Consolateur, lorsqu'il est reçu, entendu et obéi, conduit dans toute la vérité, et il est un guide parfait établi par Dieu pour tous les hommes, pour les amener à la connaissance du salut de Dieu, et ainsi connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé, c'est la vie éternelle, et toute connaissance qui reste en deçà de cela est terrestre et charnelle. Le Christ au-dedans, l'espérance de la gloire, a été comme un mystère caché depuis des siècles et des générations, mais révélé au temps de l'Évangile, Col 1:26-27. Et ainsi manifesté aux gentils, Actes 13:47, afin qu'il soit le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque les Juifs sages et professant le rejetèrent dans son apparence extérieure dans la chair, eux à qui il fut d'abord offert. Cette apparition intérieure et spirituelle du Christ de Dieu en notre jour, les principaux sacrificateurs et les chrétiens professants, littéraux et sages selon le monde, s'y opposent et y trouvent matière à objection, et ne veulent pas qu'il règne ainsi dans les cœurs et les consciences de son peuple. Mais ils l'appellent la vraie lumière, qui est sa vie et son apparition spirituelle, Jean 4, une lanterne obscure et une conscience naturelle. et ainsi ils rendent la parole et le commandement sans effet par leur religion traditionnelle, établie dans la voie. Nul ne peut être un vrai chrétien s'il n'est baptisé dans la mort du Christ, Romains 6:3-6, c'est-à-dire mort au péché. C'est le vrai baptême spirituel, dont le baptême de Jean avec l'eau n'était qu'une figure, un type et un précurseur. Il n'est pas davantage aujourd'hui un chrétien de l'Évangile celui qu'il est extérieurement, et ce n'est pas non plus ce baptême-là, qui est extérieur dans la chair, mais il est un vrai chrétien celui qu'il est intérieurement, et l'unique baptême est celui du cœur et de l'esprit. Car ni le baptême, ni l'absence de baptême, en tant que rite extérieur, ne sert à rien, mais une nouvelle créature, recréée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin de les pratiquer, Éphésiens 2:10. C'est là le christianisme, dans son antique gloire et pureté, restauré et attesté par le fait de recevoir, d'entendre et d'obéir à la grâce de Dieu qui apporte le salut intérieur et spirituel, Tite 2:11-14. Dont le baptême d'eau est un rite extérieur et visible, comme il est déclaré dans le livre de la prière commune aujourd'hui en usage en Angleterre, où ils disent que la grâce intérieure et spirituelle est une mort au péché et une nouvelle naissance à la justice. Et jusqu'à ce que les chrétiens extérieurs viennent à entendre et à obéir à cette grâce intérieure et spirituelle, ils ne peuvent connaître ni attester le salut de Dieu, car tout ce qui est en dehors n'est qu'écorce et ombre, et comme la balle vis-à-vis du frôme. Comme l'apparition et la manifestation du Christ dans la substance du ministère évangélique sont intérieures et spirituelles, ainsi en est-il de son baptême, ainsi de son repas, ainsi de toutes ses ordonnances. Et tous ceux qui, en vérité, mangent sa chair et boivent son sang demeurent en lui et lui en eux, Jean 6:56. Car c'est l'Esprit qui vivifie tous ceux qui sont rendus vivants par lui. La chair ne profite de rien, Jean 6:63. Les paroles qu'il prononçait étaient esprit et vie, quoique dites mystérieusement. À quoi les Juifs murmuraient, et beaucoup de disciples s'offensaient, Jean 6:52, Jean 6:60-61, et regardaient au dehors, comme trop de gens le font en notre jour, qui ne discernent ni sa chair ni son sang, et ainsi mangent et boivent leur propre condamnation. Bien que les enfants d'Israël aient mangé la manne dans le désert, qui tombait du ciel chaque jour, pourtant, comme elle était extérieure, ils moururent, Jean 6:49. Ce n'est donc pas le pain extérieur, dans la dispensation de l'Évangile, qui nourrit l'âme à la vie éternelle, mais la manne spirituelle, qui est reçue par la présence du Fils de Dieu en l'homme, et l'homme demeurant en lui, Jean 6:56-57. Ceux qui ainsi mangent sa chair et boivent son sang ont la vie éternelle, et il les ressuscitera au dernier jour, Jean 6:54. C'est l'antitype, ou le mystère de tous les types et représentations extérieures. La coupe du Nouveau Testament en son sang, en tout ce qui la reçoivent spirituellement, car la chair, le pain et la coupe extérieure ne profitent en rien quant à la nourriture de l'âme, c'est le spirituel qui donne la vie, le pain et la coupe de celui-ci nourrissent jusqu'à la vie éternelle. Là où le Christ est venu et est ressuscité dans l'esprit, son pain et sa coupe spirituelle manifestent sa résurrection dans l'âme. Ici, ceux qui sont vivifiés et relevés par lui vivent de toute parole qui sort de sa bouche, Matthieu 4:4. Et étant ainsi rendu participant de sa résurrection, la seconde mort n'a sur eux aucun pouvoir. Cela était représenté par Moïse élevant le serpent dans le désert, Jean 3:14, Nom 21:9. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé dans l'âme, afin que tous ceux qui ont été mordus par le serpent spirituel puissent le regarder et être guéris. Car bien qu'il ait été offert en sacrifice à Dieu pour les péchés du monde entier, afin que par sa vie et sa résurrection le monde entier puisse être sauvé, pourtant nul n'a part en lui, ni en sa résurrection, s'il n'est pas, en ce monde, lavé de son impureté par lui. Car la purification que tous les vrais croyants chrétiens reconnaissent est par le sang de Jésus-Christ, pour les purifier de leurs péchés, dont nul ne peut bénéficier sinon ceux qui marchent dans la lumière, 1 Jean 1:7. Car si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne faisons pas la vérité, 1 Jean 1:6-7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voici l'alliance dans laquelle le bénéfice, la vertu et l'efficacité du sang de Jésus sont connus et attestés jusqu'à ce jour, et doivent l'être à travers toutes les générations. C'est pourquoi la vraie lumière, ou la grâce de Dieu, a éclairé tout homme venant dans le monde, Jean 1:9, afin que tous puissent la recevoir et marcher en elle, et ainsi devenir des témoins vivants du sang de Jésus-Christ qui les purifie de leurs péchés. Si les fils et les filles des hommes avaient connu cela, ils n'auraient pas eu besoin d'imaginer un purgatoire extérieur pour purifier les gens de leurs péchés. Le sang de Jésus, ainsi connu et attesté, suffit à sanctifier et à rendre pur encore, âme et esprit tous ceux qui marchent dans la lumière, et ainsi le salut de Dieu serait connu et manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Car de même que l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi est l'éclat du soleil de justice dans l'âme de l'homme. Mais jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans le cœur, le glorieux soleil de justice avec la guérison dans ses ailes ne peut jamais être connu comme se levant. Et jusqu'à ce que cela soit connu et attesté, toute prédication est vaine et la foi des gens est vaine, et ils sont encore dans leur péché, et ne peuvent jamais être faits participants de sa résurrection ni conformes à sa mort, mais vivent et meurent dans leur péché. Et là où il va, ils ne peuvent venir, Jean 8, 21-24. Que tous soient donc avertis de prendre garde à la vraie lumière et à la grâce intérieure et spirituelle de Dieu, et de s'abandonner à ses enseignements, afin de recevoir de Dieu l'intelligence pour connaître les mystères du royaume de justice, qui sont cachés aux sages et aux prudents du monde, qui se glorifient des études de l'esprit, des arts humains et des lettres, et des acquisitions naturelles dans la volonté et la sagesse de l'homme. La sagesse divine n'a jamais été transmise à aucun des fils des hommes par ses voies. La vraie sagesse est le don de Dieu, communiqué à ceux qui l'aiment et le craignent. Les secrets du Seigneur leur sont manifestés chaque jour, et ils ne manquent pas de la connaissance des mystères du royaume de justice, mais peuvent déclarer aux autres ce que Dieu a fait pour leurs âmes, de ce qu'ils ont goûté et touché de la parole de vie éternelle. Ceux-là sont de capables ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'Esprit. Jusqu'à ce que les nations et les peuples en général soient tournés vers et reçoivent le don de Dieu, qu'il a universellement donné à tout le genre humain pour le bénéfice de tous, ils ne pourront jamais voir l'ouverture de la vie éternelle. Et la voix de celle-ci ne peut être manifestée ni connue par rien qui lui soit inférieur. Nul non plus ne peut connaître la vie par ce don tant qu'il ne s'y est pas soumis et qu'il n'a pas été spirituellement baptisé par lui dans la mort du Christ. Voilà le vrai chrétien intérieur, dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Car le vrai baptême chrétien est une mort au péché et une nouvelle naissance à la justice, et nul n'est chrétien en effet, sinon ceux qui sont ainsi baptisés. C'est pour cela que le Fils de Dieu dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3:3. Et encore, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 5, c'est au spirituel dont le Saint-Esprit lave tous les vrais croyants et les amène à la nouveauté de vie. Car il n'est pas chrétien celui qu'il est extérieurement, et ce n'est pas non plus ce baptême-là qui est extérieur dans la chair. Mais il est chrétien celui qu'il est intérieurement, et le baptême est celui du cœur dans l'esprit. C'est le vrai ministère évangélique, le dernier et le plus grand dont le monde sera jamais visité. Il a une gloire plus excellente que celle qui consistait en viandes et boissons, et en ordonnances charnelles et commandements des hommes, et c'est pourquoi il doit demeurer pour toutes les générations, 2 Cor 3, 6-11. Or vous tous qui vous êtes fixés sur des signes extérieurs visibles, et qui méprisez et négligez la substance, à savoir la grâce intérieure et spirituelle qui doit apporter votre salut, l'ennemi vous a trompé en vous empêchant de la recevoir, de l'entendre et de lui obéir, elle qui est votre maître suffisant et celle qui apporte le salut. Ainsi vous apprenez toujours, et ne pouvez jamais parvenir à la connaissance de l'Esprit de vérité en vous-même, qui est donné par Dieu pour vous conduire dans toute la vérité, Jean 16-13, le Consolateur promis par le Christ, Jean 14-16-17, pour demeurer à jamais. Celui dont il dit qu'il demeurait avec ses disciples et serait en eux, verset 17. Ce Consolateur, l'Esprit de vérité, s'est levé en notre jour, et il est manifesté en tous les vrais croyants à cette fin, détruire les œuvres du diable, mais oh ! Que les chrétiens extérieurs prennent garde, de peur qu'ils ne le rejettent dans son apparition intérieure, comme les Juifs extérieurs l'ont rejeté dans son apparition extérieure, car s'ils blessent et crucifient l'Esprit de vérité, et le Christ en eux-mêmes, ils seront aussi coupables de son sang que l'étaient les Juifs autrefois. Quelle moquerie, quel mépris, non ? Quel blasphème contre cette apparition intérieure et spirituelle du Christ ! Les chrétiens de nom se sont rendus coupables durant ces 40 années 1650-1690 persécution des Quakers. Comment l'ont-ils souffleté, lapidé et emprisonné dans ses serviteurs parce qu'ils parlaient par eux ? Non, ils l'ont crucifié de nouveau et l'ont exposé à une honte publique par leurs actes impies et leurs paroles dures, au Seigneur. Je te prie d'ouvrir leurs yeux, afin qu'ils voient celui qu'ils ont ainsi percé de leur lance aiguë, et qu'un jour de deuil et de lamentation vienne sur eux, comme il a été prophétisé pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, chaque famille à part, et leurs femmes à part, Zac 12, 10-14. Il est en vérité un consolateur pour de tels affligés maintenant, mais il crie malheur à ceux qui rient maintenant, comme il le fit au jour de sa chair aux Juifs et aux Pharisiens, Luc 6, 25. Car le christianisme extérieur d'aujourd'hui, là où la vie, l'esprit et la puissance intérieure du Christ ne sont ni reçus ni attestés, n'a pas plus de valeur aux yeux de Dieu que n'en avaient les offrandes et sacrifices des Juifs, lorsqu'ils étaient intérieurement souillés. car c'est le sacrifice d'un cœur brisé et d'un esprit contrit que le Seigneur regarde, Psa 51:17, et le fin lin blanc intérieur éboie ses yeux, et ses fils et ses filles sont tous glorieuses au-dedans, Psa 45:13. Ils ont faim et soif d'une justice intérieure, c'est-à-dire la justice de la foi qui disait « Ne sortez pas » Matt 24:26. Rome 10:8 « Car la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche, afin que tu l'entendes et que tu la fasses. » C'était la parole de la foi que les vrais ministres de l'Évangile prêchaient, croyaient et recevaient. Et celui qui ne reçoit pas cette parole intérieure ne peut connaître le salut de Dieu, car c'est la parole implantée qui peut sauver l'âme, Jacques 1:21. Jusqu'à ce que le peuple vienne à entendre et à faire cette parole, ces constructions sont sur le sable et ne tiendront pas au jour de la tempête. Car la foi vraie et salvatrice est obtenue et reçue en entendant cette parole, en tous ceux qui y vivent et s'y tiennent, sans quoi nul ne peut plaire à Dieu, Hébreux 6. Ainsi les anciens reçurent la foi, et y marchèrent, et accomplirent de nombreux actes valeureux, tant au temps de la première que de la seconde alliance, et eurent victoire sur le monde. Oui, ils furent faits plus que vainqueurs sur la mort, l'enfer et le tombeau, Rome 8:37, et obtinrent un bon témoignage, quoique n'ayant pas reçu la promesse, Hébreux 11:39. Maintenant, je dois laisser au monde ce témoignage. Que Dieu a envoyé son bon esprit dans les cœurs des enfants des hommes, pour être leur guide, conducteur et directeur en toutes choses relatives à son royaume. Et c'est selon qu'on reçoit et qu'on obéit à cet esprit, ou qu'on lui résiste et qu'on lui désobéit, que se tient la félicité éternelle de l'homme ou son malheur. Car rien de moindre ne peut donner au genre humain la connaissance des mystères du salut de Dieu, et toute connaissance sans cela est terrestre et charnelle, et ne peut jamais donner la vie. C'est pourquoi vous tous, chrétiens extérieurs, croyants qui péchez encore, qui avez pris votre repos dans une profession extérieure de Dieu et de la piété, mais vivez dans les modes, coutumes et superfluités profanes du monde, bien au-delà de ce que vous appelez païen, mon âme est souvent courbée pour vous, parce que vous résistez à l'apparition de l'Esprit de Dieu, comme faisaient les Juifs autrefois. Par votre religion traditionnelle, que vous avez reçue par et de vos ancêtres obscurcis et plongés dans la nuit, vous avez rendu sans effet la parole et le commandement de Dieu, vous avez agi outrageusement contre l'Esprit de grâce, et vous vous êtes assis en repos dans une forme de piété extérieure et inventée, imitant certaines choses que les saints hommes de Dieu faisaient jadis, sous la conduite et les inspirations de l'Esprit de Dieu. Mais pour vous cela n'est qu'une image ou ressemblance d'une chose céleste, et il peut vous être dit, comme il fut dit à Judas au jour d'Ésaïe le prophète, qui vous a demandé ces choses. Ésaïe 1:12. Vos jours fixés et vos jeûnes, vos sacrifices du matin et du soir, le Seigneur n'y a aucun égard. Mais il dit aujourd'hui comme autrefois Ésaïe 1:16-17, Jer 4:14, lavez vos cœurs de la méchanceté, la source est ouverte. Ôtez de vos maisons et de vos cœurs l'orgueil et les abominations des païens, et ne vous vantez pas de n'être pas comme les autres hommes. Que par hasard vous ne soyez pas de vulgaires ivrogne, ni blasphémateurs, ni ravisseurs, ni voleurs, ni meurtriers, mais que vous payiez la dîme de tout ce que vous possédez, fassiez l'aumône. Tout cela, et bien davantage, quand vous l'auriez, ne vous rendra pas agréable à Dieu, tandis que votre intérieur est plein de pourriture et de corruption. Votre sorte de justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, mais lui est inférieure de bien des degrés. Levez-vous, levez-vous, ceci n'est pas votre repos, parce qu'il est souillé, Miche 2:10. Secouez vos vêtements de nuit, affligez-vous, menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Car le Seigneur s'est levé pour plaider avec toute chair par son épée et par le feu, et il laissera le parvis extérieur être foulé par les gentils. Il s'est levé dans sa fureur comme un homme de guerre, et il trouble les nations par des guerres et des commotions, et fait que les tessons de la terre se brisent les uns contre les autres, afin de faire place et d'ouvrir la voie à son propre royaume, à sa règle et à son gouvernement sur la terre. Et tous ceux qui ne veulent pas qu'il règne, il les tuera par le souffle de sa bouche et l'éclat de sa venue. Car Babylone doit tomber parmi papistes et protestants, cette chose même qui a été bâtie pour atteindre le ciel, dans la volonté et la sagesse de l'homme. Car elle est venue en mémoire devant le Seigneur, et grande en sera la chute. Ses marchands se lamenteront de voir sa destruction, quand ils ne pourront la secourir. Le troupeau dispersé de la maison de Jacob, Dieu le rassemblera dans son propre bercail, à savoir sa puissance, au-dedans des murs de laquelle se trouve le puits de la vie, où toutes les brebis de son pâturage boivent. Et ici nul ne pourra les effrayer, car la puissance de Dieu est ce bercail universel, dans lequel le rassemblement des nations doit se faire. Tous ceux qui ne se rassemblent pas dans cette puissance sont de faux bergers, et rassemblent pour eux-mêmes un gain injuste, mais le rassemblement du peuple sera vers le Seigneur, Gênesis 49:10, le vrai berger et conducteur d'Israël. Ainsi les royaumes du monde deviendront les royaumes de Dieu et de son Fils. Ce témoignage m'a été imposé à laisser derrière moi au monde, ne sachant combien de temps encore mes jours pourront s'y prolonger. Ambrose Rigregat, ce 30 du troisième mois, 1691. La différence entre le véritable évangile et le faux, fidèlement exposé et clairement démontré. afin que tous les gens puissent voir et lire quel évangile ils ont reçu et auquel ils ont obéi durant toutes ces années, soit le véritable évangile, soit le faux. Le vrai et éternel évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est une bonne nouvelle de bonnes choses, à savoir la rémission des péchés et la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, Luc 1, 19, Luc 8, 1, lequel a été prêché afin de donner à tous les peuples la connaissance du salut par la rémission des péchés, Luc 1, 77. Ainsi il apparaît manifestement ici que cet évangile a été prêché pour donner à tous les peuples la connaissance du salut, connaissance qui n'était reçue que par la rémission des péchés. Le faux évangile de l'Antichrist, l'homme de péché, est une triste nouvelle de mauvaise chose, dans laquelle il n'y a aucune rémission des péchés, mais un esclavage continuel au péché et à Satan tous les jours de la vie de l'homme, selon ce qui était a été enseigné par les docteurs de cette génération, ce qui est aussi contraire au vrai évangile que la lumière l'est aux ténèbres. Le message du vrai évangile est de détourner les gens des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont purifiés et sanctifiés par la foi en son Fils, Actes 26, 18. Le message du faux évangile est que les gens ne peuvent jamais sortir de dessous la puissance de Satan, mais doivent avoir un corps de péché aussi longtemps qu'ils vivent, ce qui est une triste nouvelle et non une bonne nouvelle. Car qu'un autre feigne la liberté à celui qui a été sous le pouvoir d'un tyran dès sa naissance, et prenne son argent comme s'il devait le conduire à Christ qui le délivrerait, et pourtant, à la fin, lui dise qu'il doit demeurer sous la puissance de ce tyran tous ses jours, voilà pour lui une triste nouvelle, lui qui a dépensé son argent et n'est ni racheté ni n'a aucune espérance de l'être tant qu'il vivra, tel est le faux évangile aujourd'hui. Le message du vrai évangile est une proclamation de liberté et d'affranchissement à tous les captifs, qui ont été emprisonnés dans le péché et la transgression, dans laquelle le sang de Christ est offert gratuitement pour la rémission des péchés, Matthieu 26, 28. Le message du faux évangile est une captivité continuelle dans le péché, et jamais de liberté ni d'affranchissement à son égard, comme nous l'avons vu par de nombreuses années de triste expérience. Le vrai capitaine du salut a dit, « Apprenez de moi, et vous trouverez du repos pour votre âme, Matthieu 11, 29. » Le faux chef a dit, « Vous ne vaincrez jamais, mais vous serez dans une guerre continuelle, et vous ne parviendrez jamais ici à la paix ni au repos, ce qui est en vérité une triste nouvelle. » Les messagers du vrai évangile disent, « Ils ont été circoncis de la circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair par la circoncision de Christ, Col 2, 11. » Les messagers du faux évangile disent, « Cela ne peut jamais se faire, mais les hommes doivent avoir un corps de péché aussi longtemps qu'ils vivent, ce qui est fort différent de l'autre. » Les messagers du vrai évangile disent « Christ sauvera son peuple de ses péchés ». Les messagers du faux évangile disent « Christ sauvera du châtiment dû au péché, mais non du fait de commettre le péché, doctrine qui renverse la justice de Dieu, lui qui rend à chacun selon ses œuvres, la voie qui mène au royaume de Dieu, présentée à tous ceux qui veulent y entrer. » Comme Satan, par le péché et la transgression, a ouvert une voie vers la misère éternelle et la condamnation de Dieu pour tous ceux qui le suivent et lui obéissent. De même Dieu, dans son amour et sa miséricorde infinie par Jésus-Christ, a ouvert une porte de miséricorde à tout le genre humain et a préparé un chemin de vie, de paix et de salut éternel, afin que tous ceux qui veulent y marcher puissent y parvenir. Cette voie est appelée la voie de la sainteté, que l'impur ne franchira pas, mais le voyageur, fût-il insensé, ne s'y égarera point, Ésaïe 35, 8. Cette voie est un mystère pour tous les fils d'Adam, elle est resserrée et étroite, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent, Matthieu 7, 14, mais la voie qui mène à la destruction est large et spacieuse, et tous les impurs, oui, tous les ouvriers d'iniquité peuvent y marcher, Matthieu 7, 13. Il n'y a que ces deux voies, où tout le genre humain puisse marcher, l'une mène à la vie éternelle, et l'autre à la mort éternelle, astérisque, astérisque la mort à la vie de Dieu, non la mort à la vie inférieure dans laquelle vit l'homme déchu. Tous les hommes vivront parce que Christ a vaincu la mort et détruira la mort. Mais à moins que quelqu'un ne soit rétabli à la lumière de la vie pendant qu'il est sur la terre, il est mort à la vie de Dieu pour toujours. Or le Seigneur a un peu ouvert mon cœur pour montrer à chacun le chemin de la vie, qui est Christ Jésus, Jean 14, 6, et ce par quoi l'on peut être amené dans ce chemin, selon que l'Esprit de Dieu me donnera la parole. Il est écrit dans les Écritures de vérité qu'une femme ayant 10 pièces d'argent, si elle en perd une, allume une lampe, balaie sa maison et cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle la trouve, et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue » Luc 15, 8, 9. Ceci est une parabole du chemin de la vie, qui se trouve au-dedans lorsque la lampe est allumée et que votre maison est balayée, c'est-à-dire votre cœur, qui est souillé et corrompu par l'ennemi de votre âme, qui vous a mené de montagne en colline, comme une brebis perdue, je veux dire d'un grand prêtre à un autre, de sorte que vous avez oublié votre lieu de repos. C'est pourquoi le bon berger a laissé les 99 dans le désert, et s'en est allé après vous, qui êtes perdus dans les montagnes, il vous mettra sur ses épaules, vous ramènera à la maison et se réjouira à votre sujet, Luc 15, 4, 5. Et lorsque vous serez rentrés, vous serez nourris dans un bon pâturage près des rivières d'eau, où vous ne manquerez de rien, Ésaïe 34, 14, et votre âme se délectera d'abondance et vivra, Ésaïe 55, 2. Car le Seigneur sera votre berger, et vous serez affermis dans la justice, et grande sera votre paix, Ésaïe 54, 14, et vous n'aurez pas besoin de dire, qui montera au ciel pour faire descendre Christ d'en haut, ou qui descendra dans l'abîme pour le faire remonter d'en bas, mais la parole sera près de vous, dans votre cœur et dans votre bouche, selon ce qui est dit Rome 18, 2, 30, 14. Ce sera une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier, Psalm 119, 105, pour vous guider dans la voie de la vérité et de la paix, et vous donnera la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, 2 Corinthiens 4, 6. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et que comme elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. 1 Jean 2, 27 Que chacun donc examine son propre cœur, et y allume la lampe, afin d'y trouver la parole de foi qui le guidera. David a caché cette parole dans son cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu, Psalm 119, 11. C'est cette parole de foi que je vous prêche, afin que vous veniez l'entendre et la recevoir, par laquelle la foi peut être opérée dans votre cœur, pour vous donner la victoire sur le monde, le péché, la mort, les ténèbres et le tombeau, qui vous ont longtemps séparé de Dieu. Alors vous le verrez être votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Mais si vous me demandez ce qui doit vous conduire à ce Rédempteur, je réponds, la loi de Dieu qu'il a écrite dans votre cœur, selon sa promesse dans la Seconde Alliance, Jère 31, 31, 33, laquelle loi a été le pédagogue des apôtres pour les conduire à Christ, afin qu'ils soient justifiés par la foi, Galates 3, 24. Cette loi sera votre pédagogue pour vous conduire à Christ, afin que vous soyez justifiés par la foi, et non par les œuvres de la loi. Ce sera un maître présent auprès de vous en tout temps et en tout lieu, et il ne vous laissera jamais faire le mal, ni faire à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fasse. Elle vous conduira à aimer le Seigneur de tout votre cœur, et votre prochain comme vous-même, comme il est écrit dans la loi de Moïse, oui, lorsque vous vous tournerez à droite ou à gauche, vous entendrez une voix derrière vous, disant, « Voici le chemin, marchez-y, Ésaïe 30, 21. » Mais vous pourriez objecter et dire, « N'irai-je pas écouter des sermons d'hommes savants, tels que ceux qui ont été élevés à Oxford ou à Cambridge ?» Je dis, « Cessez de vous appuyer sur l'homme, oui, sur tous ceux qui vous détournent de la loi écrite dans votre cœur. » Car ceux-là n'ont point de lumière en eux, Ésaïe 8, 20. Ce sont des guides aveugles, et ils voudraient vous éloigner de cette loi qui est lumière, Pro 6, 23, de peur qu'elle ne vous découvre leurs ténèbres, et qu'ils ne vous conduisent dans l'aveuglement et les ténèbres qui mènent aux chambres de la mort, Pro 7, 27. Vous pouvez dépenser tout votre bien chez les médecins, comme l'avait fait cette femme, et pourtant ne pas être guérie, jusqu'à ce que vous veniez à Christ, Luc 8, 43, 44. Et vous ne le serez pas jusqu'à ce que vous veniez à être conduit à lui par ceux qui manifestent vos œuvres de ténèbres et aussi les leurs, eux qui ont appliqué un baume à votre âme blessée, avant d'avoir nettoyé vos ulcères corrompus dont votre âme est chargée. Ainsi leur baume n'a produit aucune impression ni ne vous a été d'aucune utilité, et ils ont été des médecins. Oh, écoutez donc celui qui se tient à votre porte et frappe souvent. Si vous ouvrez votre porte, il entrera en vous, soupera avec vous, et vous souperez avec lui, Rêve 3, 20. Alors vous connaîtrez la scène du Seigneur, un festin de pain sans levain. Le noyau moral de la loi est votre pédagogue, que vous devez suivre du mieux que vous le pouvez jusqu'à ce que vous soyez conduit par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous puissiez entendre et obéir à ce que le Seigneur vous dit de faire. On demanda à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Garde les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il énuméra le noyau moral de la loi qui est dans le cœur de tout homme. Puis il lui dit qu'il devait vendre ses biens, donner aux pauvres, prendre la croix et le suivre. Une fois que vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi, mais de toute évidence, vous continuerez d'obéir au noyau moral de la loi, allant même jusqu'à accomplir la loi. Si vous le recevez, il nettoiera vos plaies et ensuellera vos blessures comme le bon médecin, et atteindra en vous la partie vivante et sensible contre laquelle la corruption n'a pas prévalu. Et il ne souffrira que rien d'autre demeure au-dedans, afin de vous guérir parfaitement et de vous rendre entièrement sain de corps, d'âme et d'esprit. Et alors il versera l'huile de joie au lieu de l'esprit d'abattement, afin que vous soyez appelé un arbre de justice, la plantation du Seigneur, Ésaïe 61, 3. Alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus forte, comme la lumière de sept jours, au jour où le Seigneur pansera votre brèche et guérira le coup de votre blessure, Ésaïe 30, 26. Alors vous, qui avez été sourds, entendrez, et votre œil aveugle s'ouvrira et verra hors de l'obscurité et hors des ténèbres, Ésaïe 29, 18, et vous augmenterez votre joie dans le Seigneur, et vous vous réjouirez dans le sein d'Israël, verset 19. Alors le jugement habitera dans le désert que vous aimerez, et la justice dans le champ fertile où vous demeurerez, et l'œuvre de la justice sera la paix, et l'effet de la justice le calme et l'assurance pour toujours, Ésaïe 32, 16, 17. Alors votre âme se délectera dans le Seigneur, son Rédempteur, et magnifiera le nom du Dieu d'Israël tous vos jours. Vous n'aurez pas besoin d'être enseigné par votre prochain ni par votre frère pour connaître le Seigneur, car vous le connaîtrez et serez enseigné par lui, et grande sera votre paix selon les paroles de Jérémie, Jer 31, 4, Ésaïe 54, 13, Jean 6, 45, et l'onction dont il vous a oint demeurera en vous, et vous n'aurez besoin qu'aucun homme vous enseigne, mais comme l'onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vérité n'est point mensonge, et que comme elle vous a enseigné vous demeurerez en lui, 1 Jean 2, 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui voudraient vous séduire et vous détourner de ce maître intérieur, verset 26, afin que si quelqu'un vient dans votre maison et n'apporte pas cette doctrine, vous ne lui souhaitiez pas la bienvenue de peur de devenir participant à ses mauvaises œuvres. Oui, si moi ou un ange du ciel prêche quelque autre doctrine, que nous soyons anathèmes et que Dieu ne donne pas plus d'accroissement à notre œuvre qu'il n'en a donné à l'œuvre des prêtres durant tant d'années. Cessez donc de vous appuyer sur l'homme dont le souffle est dans ses narines et écoutez celui par qui Dieu parle en ces derniers jours. Comme vous pouvez le lire, Eben 1-2, lui qui a dit, « Apprenez de moi et vous trouverez du repos pour vos âmes », Matt 11-29. Il vous sera un maître suffisant dans toutes les voies de la justice, et sera pour vous un mur au temps de la tempête, et une ombre au temps de la chaleur, Ésaïe 25-4, « Oui, il sera votre berger et dressera votre table à la vue de vos ennemis », Psa 23-1-5, « Et il vous conduira dans de verts pâturages près des rivières d'eau, et restaurera votre âme pour louer et glorifier son nom à jamais ». Considération du culte vrai et acceptable. La profonde et grave considération du culte et du service vrai et acceptable du Dieu Tout-Puissant, qui est un esprit illimité de vie, de lumière et de gloire, a été sur moi d'année en année, depuis qu'il a d'abord ouvert mes yeux pour voir et connaître ce qui est bon et agréable à ses yeux, l'attendre diligemment dans le vrai silence de toute chair, connaître quelle est sa bonne et parfaite volonté, et avec quoi venir devant lui, et quelle offrande a été acceptable pour lui, que ce soit prière, louange, prédication ou silence. Tout autre service ou sacrifice, fut-il jamais si glorieux, qui est produit dans la volonté et l'esprit de l'homme, fut-il jamais si finement poli de phrases éloquentes, n'est que comme égorger un chien ou offrir du sang de porc, ce qui est une abomination aux yeux du Dieu pur. Son culte n'est pas limité au jour, au temps ou au lieu, aux formes, aux mots ou aux noms, mais il est spirituel et n'est accompli que par ceux qui se livrent à être conduits et guidés par son esprit, dans tout devoir qu'il exige d'eux. Ce sont les adorateurs spirituels dans le temple, qui offrent leur cœur à Dieu comme un sacrifice vivant, dans les flammes de l'amour divin, et qui peuvent l'attendre dans une véritable pauvreté d'esprit jusqu'à ce qu'il allume le sacrifice. C'est l'antique culte évangélique que notre Seigneur et Sauveur enseigna à la femme de Samarie, Jean 4, 23, 24, et qu'il enseigne maintenant à ses filles et à ses filles, à ses serviteurs et à ses servants, qui se livrent à l'attendre pour connaître son bon plaisir divin, ce qu'il exigera d'eux, car cela seul lui est acceptable qui est de sa propre préparation. C'est pourquoi il donna à Israël son bon esprit pour les diriger dans son culte et son service, Né 9, 20. Dans la claire dispensation de l'Évangile, son culte n'était pas limité à Jérusalem, ni à la montagne, ni au temple, ni à aucune forme arrêtée, mais les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs qu'alors ils cherchaient, et qu'ils cherchent maintenant pour l'adorer. Mais oh, combien différentes sont les nombreuses formes de culte en ce pays, qui sont inventées et produites dans la volonté et l'esprit de l'homme déchu, pour des fins privées et intéressées. Lorsqu'ils se rassemblent pour offrir, sans aucune délibération ni attente pour connaître la bonne volonté et le bon plaisir de Dieu, ils débitent une divination issue de l'étude de leur propre cerveau, donnant à Dieu juste autant qu'ils jugent convenable, ou qu'ils ont façonné en une forme, et il doit accepter cela ou rien, et quand on a ainsi récité tant de choses, alors le culte est achevé. Comment un prince, ou un souverain de la terre, serait-il heureux que son serviteur, en toutes occasions, se précipite en sa présence et lui donne aussitôt ce qu'il ne lui a jamais demandé, ni ne lui a commandé de lui préparer? Le maître ne jugera-t-il pas téméraire que le serviteur agisse ainsi envers lui d'année en année? Ne peut-il pas plutôt dire à bon droit au serviteur, « Il est de ton devoir de m'attendre, de connaître mon bon plaisir, et de m'offrir ce que je te commande, et le rejeter, lui et son offrande ». Et le Dieu juste et droit ne rejettera-t-il pas aujourd'hui toutes ses offrandes, et ne dira-t-il pas comme autrefois à Israël, Ésaïe 1, 11-12, qui vous a demandé ces choses? Et voici, vous tous qui allumez un feu, qui vous entourez d'étincelles, marchez à la lumière de votre feu, et parmi les étincelles que vous avez allumées, vous recevrez ceci de ma main, vous vous coucherez dans la douleur, Ésaïe 50:11. Que sont tous vos services formels et vos sermons, rassemblés dans la volonté et la sagesse de l'homme pour de l'argent, sinon des étincelles de votre propre allumage, et vous dites, ainsi a dit le Seigneur, alors que le Seigneur ne vous a jamais parlé, comme les faux prophètes d'Israël, Ésaïe 13. Repentez-vous, repentez-vous, asseyez-vous dans le sac et la cendre, que votre rire se change en deuil, vos festins en jeûne, et votre joie en tristesse. Car le Seigneur s'est levé pour sonder toutes les professions sur la terre, et malheur à ceux qui sont couverts, mais non de l'Esprit du Seigneur, car le jour qui approche éprouvera l'œuvre de chaque homme, si elle est faite en Dieu, par le mouvement de son esprit ou non. Et maintenant, les pans de la fausse Église, il les découvrira pleinement à sa honte et à sa confusion, et ses marchands, il les mènera de plus en plus au mépris, eux qui ont trafiqué d'esclaves et d'âmes d'hommes, Apoc 18, et qui, par cupidité, ont fait commerce du peuple durant de nombreux âges, 2 pieds 2, dans cette longue et sombre nuit d'apostasie depuis les jours des apôtres. L'heure de son jugement est venue, et le juge se tient à la porte, que tous ceux qui craignent Dieu et sont disposés à obéir à sa parole sortent d'elle, et ne participent point à ses péchés, de peur de participer à ses plaies. De la part d'un ami des âmes de tous les hommes, Ambrose Rigriegat, le 30 du 4e mois, 1697. Concernant l'homme spirituel, qui est engendré de Dieu par l'Esprit, par la parole immortelle de Dieu, qui vit et demeure à jamais, et qui a reçu l'Esprit d'adoption par lequel il crie « Abba Père ». Comme il y a un homme naturel, corrompu par les convoitises trompeuses, il y a aussi un homme spirituel, qui est né de l'Esprit et à la promesse de la vie éternelle. Par l'adoption, c'est-à-dire la rédemption du corps, il est fait une demeure de Dieu par l'Esprit, en qui Dieu habite et marche, selon sa promesse ancienne, 2 Corinthiens 6:16. Il marche selon l'Esprit, et n'accomplit pas les convoitises de la chair. En lui Dieu prend grand plaisir, et lui donne sagesse, puissance, force et capacité de faire tout ce qu'il lui commande, et il peut tout par celui qui est sa force, Phil 4:13. Les commandements de Dieu ne lui sont pas pénibles, mais joyeux, non, ils sont son unique délice, et cela le maintient dans l'amour et la faveur de Dieu. De sorte que Dieu ne lui refuse rien de bon, Psa 84:11, mais lui donne de l'abondance de son trésor céleste. Il le nourrit de l'héritage de Jacob, oui du meilleur fromme, et de miel du rocher, Psa 81:16, il lui ouvre ses seins de consolation, d'où vient un rafraîchissement délicieux, par lequel il croit dans la beauté de la sainteté. Dans sa bouche sont les hautes louanges du Seigneur, comme une épée à deux tranchants dans sa main, par lesquelles il exécute la vengeance sur les païens et le châtiment sur les peuples, Psa 149, 7. Comme l'homme naturel est habile à faire le mal, ainsi l'homme régénéré est habile à résister au mal, de sorte qu'il n'approche pas de sa maison. Oui, quoique le mal poursuive les méchants, pour lui il y a un arbre de vie, Pro 13, 21, dont il se nourrit et vit à jamais. Il est robuste et vaillant, aussi hardi qu'un lion, Pro 28, 1. Il ne craint pas le gonflement de la mer, il n'a pas peur de l'effroi de la nuit ni de la flèche qui vole de jour, Psa 91, 5. La loi de vérité est dans sa bouche, Mal 2, 6, de sorte que ses pas ne peuvent glisser. Il n'appelle aucun homme père sur la terre, ni aucun homme maître sous le soleil, Matt 23, 9, 10. Car il est né de Dieu et reçoit sa loi de sa bouche, il est créé de nouveau en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, afin d'y marcher. Il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matt 4:4, sur lui la mort ou les ténèbres n'ont pas pouvoir, mais il se tient dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Fil né libre, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ Jésus, Rome 8:17, il croit jusqu'à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, jusqu'à l'homme parfait, comme il est écrit de lui, F. 4:13, mais cela est un mystère pour l'homme naturel, de même que le vent souffle où il veut, et l'on en entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient ni où il va, Jean 3:8, ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Ainsi ceux qui sont de la chair s'attachent aux choses de la chair, et ceux qui sont de l'Esprit aux choses de l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Rome 8:14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, 1 Cor 2:14, tandis que l'homme spirituel juge de tout, et lui-même n'est jugé par personne, 1 Cor 2:15. C'est cette noble naissance que Dieu a produit aujourd'hui en plusieurs, à qui nous prêchons la perfection et l'affranchissement de la loi du péché et de la mort. C'est la même sagesse dont Paul disait qu'il la prêchait parmi ceux qui étaient parfaits, 1 Cor 2, 6-7. Mais l'homme charnel ne peut supporter d'en entendre parler, lui qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, comme il est écrit de lui, 1 Cor 2, 14. Il n'est donc pas surprenant qu'il ne puisse recevoir cette doctrine de perfection, que les saints hommes de Dieu ont si abondamment proposée à l'homme spirituel tout au long des Écritures de vérité. comme je l'ai montré auparavant à tous ceux qui, avec un œil spirituel, discernent les choses de Dieu, par lesquelles seules elles sont connues, 1 Cor 2, 11, mais elles sont folie et démence pour les fils de Bélial. Quiconque est né de Dieu ne pèche pas, car sa semence demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Par là les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, 9, 10. Par ceci, un homme verra bientôt s'il est enfant de Dieu ou du diable. Lui qui voudrait persuader les autres que faire le bien et ne pas commettre de péché est ce que nul n'ose revendiquer sur la terre, et que ce serait rendre louange à Dieu de dire que ses commandements ne peuvent être accomplis sans péché ni offensé, cela n'a pas d'équivalent dans toute l'Écriture. C'est pourquoi, ô vous qui êtes engendrés de Dieu, qui êtes nés de nouveau de l'eau et de l'Esprit, apportez votre témoignage contre cette hérésie inouïe, que Dieu confondra par le souffle de sa bouche et par l'éclat de sa gloire. Ceci s'est levé et se lève pour chasser tous ces brouillards, brumes et vapeurs dont l'homme de péché a couvert la terre, dans cette longue nuit de ténèbres et d'apostasie hors de la vie de Dieu, dans laquelle la fausse Église assise sur de grandes eaux a enivré toutes les nations, Rêve 17, 12, Rêve 18, 3, et s'est assise comme reine et n'a vu aucun chagrin. Ses ministres se sont engraissés dans la plénitude de la terre, et par cupidité et paroles feintes, ont fait commerce de beaucoup, de paix 2, 3, depuis 1600 ans et plus, depuis que l'Antichrist est sorti dans le monde, ils ont continué dans le monde jusqu'à ce jour, 1 Jean 2, 18, séduisant les nations par la multitude de leurs enchantements. Mais maintenant le jour du Seigneur a de nouveau jailli avec clarté en cette dernière époque, et a découvert ses pans avec tous ses marchands, qui est pire que Balaam, fils de Béor, lequel, quoiqu'aimant le salaire de l'iniquité, n'osa pas le prendre, non 22, 18, non 24, 13. Mais eux l'aiment et le prennent, et persécutent tous ceux qui ne leur donnent pas, comme nous avons aujourd'hui un nuage de témoins consignés à leur encontre. Les écrits de Rigg continuent. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.